Aristote, Morale à Eudème, livre 7, chapitre 3. Sommaire. De l'égalité dans l'amitié. Il peut y avoir amitié du supérieur à l'inférieur, mais cette amitié est de part et d'autre fort différente. Des discordes et des divisions en amitié et en amour. Paragraphe 1. Voilà donc quelles sont les trois espèces d'amitié. Dans toutes, on le voit, c'est par suite d'une certaine égalité entre les gens qu'on appelle ces liaisons diverses du nom commun d'amitié. Ainsi, les amis qui s'unissent par vertu sont amis par une égalité de vertu entre eux. Paragraphe 2. Mais il est une autre différence qu'on peut distinguer dans l'amitié. C'est celle qui résulte de la supériorité de l'un des deux amis, comme la vertu de Dieu l'emporte sur celle de l'homme. C'est là, on peut dire, une toute autre sorte d'amitié. Et en général, c'est l'amitié du chef qui commande au sujet qui obéit. Amitié aussi différente que le droit de l'un envers l'autre. Entre eux, il y a bien encore égalité proportionnelle, mais il n'y a plus d'égalité numérique. C'est dans ce genre d'amitié qu'on peut classer les rapports du père au fils et du bienfaiteur à l'obligé. Paragraphe 3. Il y a même encore ici des différences considérables. Par exemple, dans l'affection du père au fils et celle du mari à la femme. Car cette dernière relation est celle du chef au sujet. L'autre est celle du bienfaiteur à son obligé. Dans ces amitiés-là, où il n'y a pas de réciprocité d'affection, ou du moins, cette réciprocité est toute différente. Paragraphe 4. Quel ridicule de reprocher à Dieu de ne pas aimer comme on l'aime, ou d'adresser ce reproche au chef par rapport à son sujet. Le chef doit être aimé, il n'a pas à aimer. Ou du moins, s'il aime, il doit aimer d'autre façon. Paragraphe 5. Il n'y a du reste aucune différence dans le plaisir que cause l'amour, soit qu'un homme indépendant et riche l'éprouve en jouissant de sa propriété, ou un père de son enfant, soit qu'un pauvre le ressente pour la fortune qui vient satisfaire les besoins dont il souffre. Paragraphe 6. Les remarques qui précèdent peuvent s'appliquer aux amis qui se lient soit par intérêt, soit par plaisir. Je veux dire que, tantôt il y a entre eux égalité, et tantôt il y a supériorité de l'un des deux. Voilà pourquoi ceux qui se sont liés sur ce pied d'égalité se croient en droit de se plaindre quand ils ne retirent pas de leur liaison un égal profit ou des avantages égaux ou autant de plaisir. Paragraphe 7. C'est ce qu'on peut voir aisément dans les liaisons d'amour, et il n'y a pas d'autre cause aux querelles qui divisent si souvent les amoureux. Celui qui aime ignore que ce ne sont pas les mêmes motifs qui, de part et d'autre, ont touché le cœur. Et celui qui est aimé croit avoir trouvé un juste sujet de reproche quand il dit « Il n'y a qu'un homme qui n'aime point, qui puisse parler ainsi. » C'est qu'ils croient, chacun de leur côté, qu'ils en étaient tous les deux au même point en s'unissant. Chapitre 4. Sommaire. De l'égalité et de l'inégalité dans l'amitié. Le supérieur, dans la plupart des cas, peut se laisser aimer, mais il n'est pas tenu d'aimer. Différence des gens ambitieux en amitié et des gens vraiment affectueux. On recherche le plus souvent l'amitié de supériorité. Aimer est plus selon l'amitié, qu'être aimé. citation de l'Andromaque d'Antiphon. Affection qui survit aux morts. Paragraphe 1. Ainsi donc, les trois espèces d'amitié qui sont, je le répète, l'amitié par vertu, l'amitié par intérêt et l'amitié par plaisir, peuvent se partager encore chacune en deux classes. Les unes reposent sur l'égalité. Les autres se forment malgré la supériorité de l'un des amis. Paragraphe 2. Toutes les deux sont des amitiés réelles. Et cependant, les vrais amis ne sont amis que par l'égalité, car il serait absurde de dire qu'un homme est l'ami d'un enfant parce qu'il l'aime et qu'il en est aimé. Il y a des cas où il faut que le supérieur soit sincèrement aimé, et pourtant, s'il aime à son tour, on lui reproche d'aimer quelqu'un qui n'est pas digne de son affection, parce qu'on mesure l'amitié au mérite des gens qui l'éprouvent, et d'après une sorte d'égalité qu'on établit entre les amis. Paragraphe 3. Tantôt, c'est la différence de l'âge qui rend l'amitié peu convenable. Tantôt, c'est la différence de vertu, de naissance ou tel autre avantage qui donne à l'un des amis une supériorité trop marquée. Le supérieur doit toujours ou moins aimer ou ne pas aimer. Soit ou aimer moins ou ne pas aimer. Soit que d'ailleurs, l'amitié est eue d'abord pour cause, l'intérêt, le plaisir ou même la vertu. Paragraphe 4. Quand les différences de supériorité sont peu sensibles, on comprend qu'il puisse y avoir certaines dissensions entre les amis. Pour les choses matérielles, il y a des cas où une différence légère n'a pas la moindre gravité. Par exemple, quand on mesure du bois. Elle en a beaucoup quand il s'agit de mesurer de l'or. Mais on juge assez mal ordinairement de la petitesse des choses. Notre bien propre nous paraît très grand, parce qu'il est proche de nous, tandis que le bien d'autrui nous paraît fort mince, parce qu'il est à distance. Paragraphe 5. Mais quand la différence est excessive, les gens eux-mêmes ne pensent plus à demander un retour, ni surtout un retour exactement égal. Irait-on, par exemple, supposer que Dieu doit nous aimer autant que nous l'aimons? Paragraphe 6. Il est donc parfaitement évident que, pour être ami, il faut toujours être dans une sorte d'égalité et qu'on peut s'aimer réciproquement sans être cependant des amis. Paragraphe 7. Voilà ce qui explique pourquoi les hommes en général recherchent l'amitié où ils ont la supériorité plutôt que l'amitié d'égalité. C'est qu'ils y trouvent tout à la fois et l'avantage d'être aimés et le sentiment de leur supériorité. Voilà aussi ce qui fait que bien des gens préfèrent le flatteur à l'ami. La flatterie donne à croire à celui qui se laisse flatter qu'il y a ces deux avantages réunis. Ce sont surtout les gens ambitieux qui recherchent les amitiés de ce genre, car être admiré, c'est être supérieur. Paragraphe 8. En amitié, les hommes se divisent naturellement en deux classes. Les uns sont affectueux, les autres sont ambitieux. On est affectueux quand on se plaît plus à aimer qu'à être aimé. On n'est qu'un ambitieux quand on se plaît plus à recevoir l'affection qu'à la rendre. Celui qui jouit d'être admiré et d'être aimé est un ami de sa propre supériorité, tandis que celui qui se complaît à aimer est vraiment affectueux. Quand on aime, de toute nécessité, on agit. Tandis qu'être aimé n'est qu'un accident purement passif. On peut ne pas savoir qu'on est aimé, mais on ne peut jamais ignorer que l'on aime. Paragraphe 9. J'ajoute qu'il est plus selon l'amitié d'aimer que d'être aimé, et qu'être aimé concerne davantage l'objet même de l'amour. La preuve, c'est que l'ami n'hésite pas à préférer de connaître l'objet de sa passion plutôt que d'en être connu dans les cas où le choix est inévitable. C'est ce que font les femmes elles-mêmes dans les emportements du cœur, et c'est ce que fait l'Andromaque dans Typhon. Quand on cherche à être connu, il semble qu'on ne songe absolument qu'à soi et qu'on veut éprouver personnellement du plaisir sans songer à en donner à un autre. Tandis que connaître celui qu'on aime a pour but et de lui faire plaisir et de l'aimer. Paragraphe 10. Voilà pourquoi nous estimons tant et nous louons ceux qui conservent leur affection pour les morts, car ils connaissent et ne sont pas connus. En résumé, nous avons fait voir jusqu'ici qu'il y a plusieurs genres d'amitié et que ces genres sont au nombre de trois. Nous avons montré qu'il est très différent d'être aimé et de rendre réciproquement l'affection qu'on reçoit. Enfin, nous avons expliqué la différence des amis selon qu'ils sont sur le pied d'égalité ou qu'il existe une supériorité de l'une des deux parts. Chapitre 5. Sommaire. Conciliation des opinions opposées sur la nature de l'amitié. Manière d'entendre ces principes, que le semblable est l'ami du semblable, ou le contraire, l'ami du contraire. C'est dans le vrai milieu uniquement que se trouvent la jouissance et le repos. Les caractères opposés se plaisent en se compensant, en quelque sorte, mutuellement. Paragraphe 1. Ainsi que je l'ai dit au début de cette étude, le mot d'ami est devenu un terme beaucoup trop général dans les théories superficielles qui ont été émises sur l'amitié. Les uns, on se le rappelle, soutenaient que c'est le semblable qui est ami, les autres que c'est le contraire. Maintenant, il nous faut expliquer les vrais rapports du semblable et du contraire aux diverses amitiés que nous avons indiquées. Paragraphe 2. D'abord, on peut ramener la notion de semblable à celle d'agréable et de bon, car le bon est simple, tandis que le mauvais est de forme très multiple. L'homme vraiment bon est toujours semblable à lui-même et ne change jamais de caractère. Loin de là, le méchant, l'insensé, ne se ressemble pas du matin au soir. Paragraphe 3. Aussi, à moins que les méchants n'aient à se concerter pour quelque objet, ils ne sont pas amis les uns des autres. Ils sont constamment divisés. Et l'amitié qui n'est pas solide n'est pas de l'amitié. Ainsi donc, en ce sens, c'est le semblable qui est ami parce que le bon est semblable. Mais en un autre sens, on peut dire que le semblable se confond avec l'agréable, car les mêmes choses sont agréables à ceux qui se ressemblent. Et c'est une loi naturelle que tout être se plaise d'abord à soi-même. Paragraphe 4. Voilà pourquoi les sons mêmes de la voix, les manières, les relations quotidiennes sont si agréables aux membres d'une même famille. Et j'ajoute même, parmi les animaux autres que l'homme. Ce sont là, aussi j'en conviens, des côtés où les méchants peuvent, comme d'autres, s'aimer entre eux. Et le méchant, toujours, recherche le méchant. Paragraphe 5. D'autre part, on peut soutenir que le contraire est l'ami du contraire, tout comme l'utile peut l'être, car le semblable est inutile à son semblable. C'est ainsi que le maître a besoin de l'esclave et l'esclave du maître. C'est ainsi que le mari et la femme ont besoin l'un de l'autre, et que le contraire est tout à la fois agréable et désiré en tant qu'utile. Et si ce n'est pas comme étant le but même qu'on se propose, c'est du moins comme pouvant contribuer à y conduire. En effet, on peut le voir, quand on obtient ce qu'on désire, on est arrivé à la fin même qu'on cherche. On ne désire plus le contraire, comme le chaud désire le froid, comme le sec désire l'humide. Paragraphe 6. À un certain point de vue, l'amitié même du contraire peut passer pour un bien. Ainsi, les contraires se désirent mutuellement par l'entremise du milieu où ils se joignent. Ils se recherchent comme les pièces d'un objet qu'on recompose, parce que c'est de la réunion de tous deux que se forme un seul et unique milieu. Paragraphe 7. Mais, j'ajoute, ce n'est que par accident et indirectement que le contraire désire le contraire. En soi, il ne désire que la position moyenne du milieu. Encore une fois, les contraires ne peuvent pas se désirer mutuellement. C'est le milieu seulement qu'ils désirent. Quand on a eu trop froid, on revient au milieu en se réchauffant. Et si l'on a eu trop chaud, on y revient en se refroidissant. Et de même pour tout le reste. Paragraphe 8. S'il en est autrement, on est toujours dans le désir et jamais dans les milieux. Au contraire, celui qui est arrivé au juste milieu y jouit sans désir des choses qui sont naturellement agréables, tandis que les autres ne jouissent que de ce qui est sorti de ses qualités et de ses bornes naturelles. Paragraphe 9. Il y a plus. Cette espèce d'amitié, du contraire pour le contraire, pourrait et s'étendre et s'appliquer même aux choses inanimées. Mais l'amour véritable ne se produit que quand il y a milieu à l'égard d'êtres animés et vivants. Voilà pourquoi on se plaît souvent avec les êtres qui vous sont le plus dissemblables. Les gens austères se plaisent avec les rieurs, et les gens de caractère ardent avec les paresseux. On dirait qu'ils sont replacés dans le vrai milieu les uns par les autres. Paragraphe 10. C'est donc indirectement, comme je viens de le dire, que les contraires sont amis, et ils ne le sont que pour le bien qu'ils se font réciproquement. D'après les explications que nous avons données, on voit maintenant quelles sont les espèces de l'amitié, quelles sont les différences qui distinguent les amis aimants et aimés, et enfin, ce que sont les conditions auxquelles les gens peuvent être encore amis, sans même avoir d'affection réciproque. Chapitre 6. Sommaire. De l'amour de soi. On ne peut pas le confondre avec l'amitié proprement dite. Rapports et différences de l'amour de soi et de l'amitié. Il n'y a que l'homme de bien qui puisse s'aimer lui-même. Le méchant est avec lui-même dans une lutte perpétuelle. Paragraphe 1. On a beaucoup discuté pour savoir si l'on pouvait ou si l'on ne pouvait pas s'aimer soi-même. Il y a des gens qui trouvent que l'on est, avant tout, son propre ami, et qui, se faisant une règle de l'amour de soi, rapportent à cette mesure toutes les autres amitiés pour les juger. Mais, en s'en tenant à la théorie, et d'après les faits qui se produisent évidemment entre les amis, ces deux genres d'affection sont contraires à certains égards, et à certains autres, Elles semblent pareilles. Paragraphe 2. Ainsi, l'amitié qu'on se porte à soi-même a bien quelque analogie avec l'amitié. Mais absolument parlant, elle n'en est pas. Nécessairement, être aimé et aimé doivent se trouver dans deux êtres tout à fait distincts. Mais, dira-t-on, ce qui explique qu'on puisse s'aimer soi-même, c'est ce qu'on a dit de l'homme tempérant et de l'intempérant, qui, en quelque sorte, le sont tout à la fois et de plein gré et malgré eux, parce qu'en eux, les diverses parties de l'âme sont dans un certain rapport les unes relativement aux autres. C'est toujours le même phénomène, à peu près, d'être son propre ami ou son propre ennemi, ou de se faire tort à soi-même. Tout ceci, en effet, suppose deux êtres nécessairement, et deux êtres séparés et distincts. Si l'on admet que l'âme puisse être deux en quelque sorte, et qu'elle se partage, ces phénomènes, alors, sont possibles en un certain sens. Mais, si l'on n'admet pas cette division, ils deviennent impossibles. C'est d'après les manières d'être de l'individu envers lui-même que peuvent se définir les différents modes d'aimer dont nous parlons ordinairement dans nos études. Ainsi, aux yeux de bien des gens, l'ami est celui qui veut le bien d'un autre ou ce qu'il croit son bien, sans songer en rien à son avantage personnel et en ne pensant qu'à son ami. Paragraphe 4. À un autre point de vue, on semble surtout aimer celui dont on souhaite l'existence pour lui seul et non pour soi-même, sans même avoir part à ses biens, et sans vivre avec lui. Paragraphe 5. Enfin, au dernier point de vue encore, on trouve que l'ami est celui avec qui l'on veut vivre pour sa société toute seule et sans aucun autre but, comme les pères qui souhaitent bien l'existence de leurs enfants, mais qui vivent avec d'autres personnes. Paragraphe 6. Toutes ces opinions sur l'amitié se combattent et s'excluent mutuellement. L'un exige que les amis ne songent absolument qu'à vous seuls, l'autre qu'ils ne pensent jamais qu'à votre existence, un troisième qu'ils ne désirent de vivre qu'avec vous, ou autrement, et sans ces conditions, on déclare que ce n'est plus là de l'amitié. Paragraphe 7. Quant à nous, nous croyons que partager la douleur de quelqu'un sans aucune arrière-pensée, c'est lui donner une preuve d'affection réelle. Mais il ne faut pas que ce soit comme les esclaves qui soignent leur maître, parce que, d'ordinaire, ces malades sont d'une humeur peu facile, mais qui, tout en donnant ses soins, ne pensent guère à eux. Il faut que ce soit comme les mères qui partagent le chagrin de leur enfant, ou comme certains oiseaux mâles qui partagent avec leurs femelles la douleur et la peine de la maternité. Paragraphe 8. Le véritable ami ne se borne même pas seulement à témoigner sa sympathie pour la souffrance de son ami. Il tâche encore de partager effectivement cette souffrance. Et par exemple, il endurerait la soif avec son ami quand il a soif, si la chose se pouvait. Ou du moins, il s'efforce de toujours se rapprocher de cette communauté le plus qu'il peut. Paragraphe 9. Même remarque sur la joie qu'on partage avec son ami. Il faut que l'on se réjouisse pour son ami lui-même, et sans autre motif que la joie qu'il éprouve. De là encore toutes ces explications de l'amitié, quand on dit « l'amitié est une égalité », les amis véritables n'ont qu'une âme. Paragraphe 10. On peut, à plus forte raison, transporter tous ces raisonnements à l'individu seul. En effet, C'est bien ainsi que l'individu se souhaite à lui-même son propre bien. Personne ne s'oblige soi-même en vue de quelque autre fin, ni pour gagner la faveur de qui que ce soit. On ne peut pas même se dire à soi-même le service qu'on s'est rendu puisque l'on est un. Et celui qui veut faire savoir certainement à un autre qu'il l'aime semble vouloir être aimé plutôt encore qu'il n'aime réellement. Paragraphe 11. Quant à souhaiter la vie de quelqu'un, à désirer de vivre toujours ensemble, à partager ses joies et toutes ses douleurs, à n'avoir en un mot qu'une âme, comme on dit, et à ne pouvoir se passer l'un de l'autre, et à mourir même ensemble, au besoin. Voilà ce que fait éminemment l'individu en tant qu'il est un, et apparemment qu'il est avec lui-même en une société perpétuelle. Ce sont bien là, je l'avoue, tous les sentiments que l'homme du bien éprouve envers lui-même. Paragraphe 12. Dans le méchant, au contraire, tous ses sentiments sont en désaccord. Il n'est pas moins partagé que l'intempérant. Et voilà pourquoi il peut être même son propre ennemi. Mais en tant que l'individu est un et indivisible, il se désire et s'aime toujours lui-même. Paragraphe 13. Or, c'est là justement ce qu'est l'homme de bien et l'ami en qui l'affection n'est inspirée que par la vertu. Mais le méchant n'est pas un, il est plusieurs. Il change en un seul jour du tout au tout, et il est 100 fois dégoûté de lui-même. J'en conclus que l'amour qu'on éprouve envers soi personnellement peut être ramené à l'amitié de l'homme vertueux. C'est parce que l'homme de bien est en un certain sens semblable à lui-même. C'est parce qu'il est un et parce qu'il est bon pour soi qu'en ce sens il est son propre ami et qu'il se désire. L'homme de bien est selon la nature, tandis que le méchant est un être contre nature. Paragraphe 14. J'ajoute que l'homme de bien n'a pas à s'injurier lui-même comme le fait parfois le débauché. En lui, le dernier homme n'insulte pas le premier comme dans celui qui a des remords. Ni l'homme actuel n'insulte le précédent comme dans le menteur. En un mot, il n'y a point en lui de ces distinctions que font les sophistes quand ils séparent subtilement Coriacus et le bon Coriacus. Paragraphe 15. Ce qui prouve bien tout ce qu'il y a de bon encore dans ces natures perverses, c'est que les méchants, en s'accusant eux-mêmes, on arrive à se donner la mort, quoi qu'il semble que tout homme cherche toujours à être bon envers soi. L'homme de bien, en tant qu'il est absolument bon, cherche à être aussi son propre ami, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il a en lui-même deux éléments qui, naturellement, veulent être amis l'un de l'autre et qu'il est impossible de séparer. Paragraphe 16. Voilà comment, dans l'espèce humaine, chaque individu est, on peut dire, son propre ami, tandis qu'il n'en est point ainsi dans les autres animaux. Et le cheval, par exemple, ne peut jamais passer pour être son ami propre. Je vais plus loin et je dis que dans l'espèce humaine, les enfants ne le sont pas non plus, et qu'ils ne deviennent leurs propres amis que quand ils sont capables de choisir et de préférer quelque chose avec intention. C'est alors seulement que l'enfant peut être en désaccord avec lui-même, en résistant au désir qui le pousse. Paragraphe 17. L'amitié envers soi-même ressemble beaucoup aux affections de famille. Il ne dépend pas de nous de les dissoudre ni l'une ni l'autre. On a beau se quereller, on n'en est pas moins parent, et l'individu, malgré ses divisions intestines, n'en est pas moins un durant toute sa vie. D'après tout ce qu'on vient de dire, on doit voir en combien de sens peut se prendre le mot d'aimer. Et il n'est pas moins clair que toutes les amitiés, quelles qu'elles soient, peuvent se ramener à la première et parfaite amitié. Chapitre 7. Sommaire. De la concorde et de la bienveillance. Rapports et différences de la bienveillance et de l'amitié. La bienveillance n'agit pas. Rapports et différences de la concorde et de l'amitié. La concorde est le véritable lien des États en unissant les citoyens entre eux. Paragraphe 1. Un sujet qui appartient encore à cette étude, c'est l'analyse de la concorde et de la bienveillance, car l'amitié et la bienveillance sont des sentiments qui semblent à bien des gens se confondre, ou qui, du moins, semblent ne pas pouvoir exister les uns sans les autres. À mon avis, la bienveillance n'est pas la même chose tout à fait que l'amitié, et elle n'en est pas non plus tout à fait différente. Paragraphe 2. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'amitié se divisant en trois espèces, la bienveillance ne se trouve ni dans l'amitié par intérêt, ni dans l'amitié par plaisir. Si vous voulez en effet du bien à quelqu'un, parce que cela vous est utile. Vous ne le voulez plus alors pour cette personne même. Vous ne le voulez que pour vous. Au contraire, il semble que la bienveillance, ainsi que l'amitié véritable, s'adresse non pas à celui qui la ressent, mais à celui pour qui on l'éprouve. D'autre part, si la bienveillance se confondait avec l'amitié par plaisir, on éprouverait de la bienveillance même pour des choses inanimées. Concluons donc, évidemment, que la bienveillance se rapporte à l'amitié morale. Paragraphe 3. Du reste, l'homme bienveillant ne fait pas plus que vouloir, tandis que l'ami doit aller jusqu'à faire en réalité le bien qu'il veut. Car la bienveillance n'est que le commencement de l'amitié. Tout ami est nécessairement bienveillant. Mais tout cœur bienveillant n'est pas un cœur ami. L'homme bienveillant ne fait guère que commencer à aimer. Et voilà pourquoi l'on dit de la bienveillance, je le répète, qu'elle est le commencement de l'amitié. Mais ce n'est pas encore de l'amitié. Paragraphe 4. Les amis semblent être dans un parfait accord, tout aussi bien que ceux qui sont d'accord entre eux semblent être des amis. Mais la concorde, tout amicale qu'elle peut être, ne s'étend pas à tout indistinctement. Elle s'étend seulement aux choses que doivent faire de concert les gens qui sont ainsi de bon accord, et à tout ce qui concerne leur vie commune. Ce n'est même pas uniquement de pensée ni de goût qu'ils sont d'accord, car il se peut qu'on désire, de part et d'autre, des choses contraires, et qu'il en soit ici comme dans l'intempérant, où il y a des accords fréquents. Mais il faut que des deux côtés, la résolution et le désir de faire s'accordent complètement. Paragraphe 5. La concorde, d'ailleurs, n'est possible qu'entre les gens du bien, car les méchants, en désirant et en convoitant les mêmes choses, ne pensent qu'à se nuire mutuellement. Paragraphe 6. Il semble que le mot de concorde ne peut se prendre d'une manière absolue, non plus que celui d'amitié. Il y a plusieurs espèces de concorde. La première et la vraie est bonne également par sa nature, ce qui fait que les méchants ne sauraient jamais la connaître. L'autre peut se trouver aussi entre les méchants quand, par hasard, ils poursuivent et désirent un même but. Paragraphe 7. Mais il faut, pour que les méchants s'entendent, qu'ils désirent en effet les mêmes choses, de façon à pouvoir tous deux les obtenir en même temps. Car, pour peu qu'ils désirent une seule et même chose qu'ils ne puissent avoir à la fois, ils n'hésitent pas à se battre pour se l'arracher. Et les gens, qui sont vraiment de bon accord, ne se combattent jamais. Paragraphe 8. Il y a concorde réelle quand il y a même sentiment, par exemple, en ce qui touche le commandement et l'obéissance. Non pas seulement pour que le pouvoir et l'obéissance soient alternatifs, mais parfois pour qu'ils ne changent pas de main. Cette espèce de concorde est ce qui forme l'amitié sociale, l'union des citoyens entre eux. Voilà ce que nous avions à dire de la concorde et de la bienveillance. Chapitre 8. Sommaire. De l'affection réciproque des bienfaiteurs et des obligés. Si le bienfaiteur aime plus qu'il n'est aimé, c'est que l'obligé est en quelque sorte son œuvre, et que naturellement, on aime toujours ce qu'on a fait, comme le prouve l'affection des parents pour leurs enfants, et même celle des animaux pour leurs petits. Paragraphe 1. On demande pourquoi les bienfaiteurs aiment plus leurs obligés que les obligés n'aiment leurs bienfaiteurs. En bonne justice, il semble que ce devrait être tout le contraire. Paragraphe 2. On pourrait croire que l'intérêt et l'utilité personnelle expliquent suffisamment ceci, et dire que l'un est un créancier à qui l'on doit, et l'autre un débiteur qui doit rendre. Toutefois, non seulement cette différence a lieu, mais de plus, il y a là quelque chose d'assez naturel. Paragraphe 3. L'acte en effet est toujours préférable, et le rapport est pareil entre l'œuvre produite par l'acte et l'acte qui la produit. Or, l'obligé est en quelque sorte l'œuvre du bienfaiteur. Et voilà pourquoi, même dans les animaux, il y a une si vive tendresse envers les petits. D'abord pour les mettre au monde, et ensuite pour les conserver quand ils sont nés. Paragraphe 4. C'est là encore ce qui fait que les pères, moins tendres d'ailleurs que les mères, aiment plus leurs enfants qu'ils n'en sont aimés, et que ces enfants, à leur tour, aiment plus les leurs qu'ils n'aiment leurs parents. C'est que l'acte est ce qu'il y a de mieux et de supérieur. J'ajoute que si les mères aiment plus que les pères, c'est qu'elles pensent que les enfants sont davantage leur œuvre. On mesure l'œuvre par la peine qu'elle donne, et c'est la mère qui a le plus de mal dans la procréation. Nous nous arrêtons ici en ce qui concerne l'amitié, tant celle qu'on peut avoir pour soi que celle qu'on peut avoir pour les autres. Chapitre 9. Sommaire. De la justice dans les relations d'amitié et dans les associations de toutes sortes, politiques, commerciales, particulières. Des diverses formes de gouvernement. La proportion est, en général, la seule égalité véritable et juste. Paragraphe 1. Il semble que la justice est une sorte d'égalité et que l'amitié
consiste dans l'égalité même. À moins qu'on ait tort quand on dit que l'amitié n'est qu'une égalité. Toutes les constitutions politiques ne sont au fond que des formes de la justice. Un État est une association, et toute association ne se maintient que par la justice. De telle sorte que toutes les formes de l'amitié sont tout autant de formes de la justice et de l'association. Toutes ces choses se touchent et n'ont entre elles que des différences à peu près insensibles. Paragraphe 2. Dans les rapports de l'âme au corps, dans ceux de l'ouvrier à son instrument, ou ceux du maître à son esclave, qui sont presque les mêmes, il n'y a pas de véritable association, car il n'y a pas deux êtres. Ici, il n'y en a qu'un seul, et là, il n'y a que la propriété d'un seul et même individu. On ne peut pas non plus concevoir le bien de l'un et de l'autre séparément. Mais le bien de tous les deux ensemble est le bien de l'être unique pour lequel il est fait. Ainsi, le corps est un instrument congénial de l'âme, et l'esclave est comme une partie et un instrument séparable du maître. Et l'instrument de l'ouvrier est une sorte d'esclave inanimé. Paragraphe 3. Toutes les autres associations, on peut dire, sont une partie de l'association politique, telles que les associations des fratries, des mystères, etc. Et même les associations commerciales et lucratives sont encore des espèces d'État. Or, toutes les constitutions, avec leurs diverses nuances, se retrouvent dans la famille, tant les constitutions pures que les constitutions dégénérées. Car ce qui se passe pour les États ressemble beaucoup à ce qui a lieu dans les diverses espèces d'harmonie. Paragraphe 4. Ainsi, l'on peut dire que le pouvoir royal est celui du père sur les enfants qu'il a engendrés. Le pouvoir aristocratique est celui du mari à la femme. Et la République est le rapport des frères entre eux. La dégénération de ces trois formes pures, c'est, on le sait, la tyrannie. C'est l'oligarchie, c'est la démocratie. Et il y a autant de droits différents et de justice qu'il y a de différentes formes de constitution. Paragraphe 5. D'autre part, comme il y a égalité de nombre, et de plus égalité de proportion, il doit y avoir tout autant d'espèces d'amitié et d'association. La simple association de camarades et l'amitié qui les unit ne se rapportent qu'au nombre, et tous sont soumis à la même mesure. Dans les associations proportionnelles, c'est celle qui est aristocratique et royale qui est la meilleure, car le droit n'est pas identique pour le supérieur et pour l'inférieur, et il n'y a de juste entre eux que la proportion. Paragraphe 6. Il en est de même de l'amitié du père et du fils, et de toutes les associations de ce genre.